peut-être, je sais pas, des fleurs.
Non.
Alors, des chocolats, elle aime ça les chocolats.
C'est beaucoup trop classique, voyons.
Ouais, mais enfin, c'est juste le cadeau de Noël de ma mère, c'est pas pour la reine d'Angleterre.
Je suis revenue de là-bas comme glacée de l'intérieur. J'ai mis tellement de temps à être dans la vie, à pouvoir simplement écouter de la musique. C'est ce qu'a dit Marceline Laurie dans Events, réalisatrice, scénariste, productrice et écrivaine française. Le 13 avril 1944, elle avait 15 ans et a été déportée à Auschwitz-Birkenau par le convoi 71. Elle sort du camp le 10 mai 1945 à sa libération. La vie quotidienne vous confronte tout le temps aux souvenirs et je me suis souvent comportée après les camps comme si j'y étais encore, nous dit-elle. La déportation est restée en toile de fond de tout ce qu'elle a écrit et jusqu'à la fin de sa vie, elle témoignera de la Shoah. La mémoire en héritage, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Il reste très peu de rescapés de la déportation. Les descendants, eux, portent encore cette mémoire. Et à Mayenne, à la Vigie Mémoriale, se termine bientôt l'exposition temporaire qui évoque précisément ces histoires intimement reliées entre ces personnes rescapées de la déportation et leurs descendants. L'occasion pour nous de revenir sur l'histoire du mémorial avec Élodie Roland, coordinatrice du mémorial. Dans la suite de cette émission, nous irons à Château-Gontier avec Caroline qui nous emmène un dating particulier puisqu'il s'agit d'un pro-dating inversé organisé par Pôle emploi. Et puis bien sûr, comme chaque mardi, Donatien termine notre émission et aujourd'hui il pose son regard sur les feuilles d'automne. Lucie, j'oublie quelque chose je crois.
Souvent en ce moment, Margot, bienvenue chers auditeurs quand même.
Bah oui, bonjour à tous, vous êtes avec nous dans l'agité du local et on est très contente de passer ce moment avec vous. Tu vas bien, toi, Lucie ?
Très bien, ça y est, j'ai Maria Carey qui tourne en boucle à la maison et surtout, c'est la saison des raclettes.
Dis-moi, est-ce que les nouvelles du coin sont bonnes ?
Eh bien, pour commencer, Margot, chers auditeuristes, on est en hiver, il fait froid et pourtant la ville de Château-Gontier prépare déjà son été 2024. La collectivité est à la recherche de personnes pour l'animation des 3-17 ans dans les accueils de loisirs et les espaces jeunes sur les mois de juillet et août 2024. Ce sera évidemment pour du travail en journée et pour les séjours et stages. Sachez d'ailleurs que les stages de BAFA qui durent minimum 14 jours sont aussi pris en compte. Pour postuler, sortez vos crayons et vos carnets. Vous pouvez accéder au dossier de candidature disponible sur le site internet châteaugontier-sur-mayenne.fr, tout attaché, et sinon dans les mairies de la commune. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour envoyer vos dossiers à Monsieur le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, Hôtel de Ville de Pays, Service Ressources Humaines, 23 Place de la République, 53 200 Château-Gontier-sur-Mayenne ou par mail à recrutement@chateaugontier.fr. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ne vous en faites pas, vous pouvez retrouver toutes les infos en contactant l'Hôtel de Ville au 02 43 09 55 55. À Laval, en revanche, on est bel et bien dans l'esprit de la saison, puisque samedi dernier, 2 décembre, trois vitrines de la rue Charles de Gaulle à Laval ont été dévoilées sur le thème de Noël, évidemment. Et il se trouve que, pour ceux qui s'y arrêtent un peu, chaque vitrine laisse deviner une quarantaine de lots qui sont à gagner. À la mi-janvier, trois personnes seront tirées au sort pour les gagner. Seul prérequis, avoir consommé et rempli un bulletin de l'un des 110 commerçants participant à cette opération. Il faut un peu de place dans le salon cependant, car les gagnants repartiront avec l'ensemble de la vitrine.
Waouh !
Pour continuer, on remonte encore un peu Margot à Mayenne. L'ancienne gare, en 2024, accueillera un pôle jeunesse. Et oui, les trains ne passent plus depuis le milieu des années 70. Alors plutôt que de laisser la gare à l'abandon, la ville a décidé d'y accueillir les jeunes de 12 à 18 ans sur le territoire. Et l'idée d'avoir une multitude d'espaces divers, salles multimédia, espaces ouverts, cuisine pédagogique et j'en passe, mais aussi des locaux pour les éducateurs de rue d'Inalta et même un espace extérieur avec des branchements possibles pour des concerts. Les travaux sont en cours et d'ailleurs les jeunes pourront s'impliquer dans la décoration et l'ameublement, tout ça pour une ouverture en 2024 donc. Un peu avant ça, la nouvelle maison d'accueil et de résidence pour personnes âgées, ou MARPA, de Val-de-Maine, sera inaugurée samedi 16 décembre à 11h30. Et des portes ouvertes seront proposées au public de 9h à 11h, L'objectif pour la communauté de communes du pays de Mélégresse était de rénover cette MARPA pour proposer des équipements de qualité et garantir l'autonomie des personnes âgées.
Et puis Lucie, tu ne nous as rien dit sur les rendez-vous qui ont retenu ton attention par contre.
Et oui Margot, tu me connais bien. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est la commémoration de la Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Et donc, dans ce cadre, la ville de Château-Gontier tient une cérémonie au monument aux morts du bout du monde à partir de 16h. Et cette cérémonie donnera lieu à la remise d'une décoration, la croix du combattant, à Monsieur Daniel Charles. Et puis, pour finir, vendredi 8 décembre prochain, à 18h30, il y a le vernissage de l'exposition Stégano d'Ahmet Bassar à l'atelier Lego, place de la République Poincée à Ombré d'Anjou. L'entrée est libre, c'est les jeudis et vendredis de 14h à 18h et les samedis et dimanches de 15h à 18h30. Pour vous donner envie rapidement, la stéganographie est un art de dissimulation d'informations pour faire passer un message de manière subliminale à travers un autre message.
Bien, ça a l'air assez méta, mais je crois que j'ai compris. C'est peut-être une première formation pour la DGSE, qui sait. Des photos, des visages, des histoires. Amis auditeurs, je vous en parle aujourd'hui parce que cette exposition se termine le 20 décembre à la Vigie Mémoriale à Mayenne. J'ai pensé qu'il serait intéressant qu'Élodie Roland, coordinatrice, nous raconte la création du mémorial, lieu de mémoire de la déportation dans notre département, et nous dise quelques mots sur cette exposition qui porte les visages des Mayennais descendants de rescapés. La grande histoire, c'est aussi celle de ceux qui se chargent de transmettre la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment est arrivé ce projet de mémorial en Mayenne ?
Donc du coup, le projet vraiment de transmission de cette mémoire de la déportation a commencé localement pour les prémices, on va dire, de ce futur mémorial. Ça a commencé vraiment quasiment il y a 30 ans, donc au milieu des années 90, où en fait un déporté mayennais, donc résistant, Arsène Doumo, décède en 95 et l'année qui suit son décès, c'était lui en fait qui tous les ans lisait le message national des anciens déportés à Mayenne au moment de la cérémonie en hommage aux déportés fin avril. Et en fait l'année qui a suivi son décès, personne s'est senti légitime en fait pour reprendre cette lecture là et reprendre le relais et le flambeau de Monsieur Doumo. Et en fait, c'est sa veuve, Madame Doumo, qui s'est tout de suite tournée vers sa fille, Jocelyne, en lui disant « Mais c'est à vous maintenant, les descendants, en fait, de reprendre le relais, le flambeau de cette transmission, pas comme témoin, parce qu'ils n'ont pas vécu la déportation, mais par contre comme passeur, en fait, comme passeur de cette mémoire et pour en assurer la transmission. » Jocelyne a accueilli ça comme elle l'a pu, parce qu'il y avait un double choc, déjà celui de la perte de son père, hein, qui est déjà pas évident en soi, et puis de cette immensité de la mémoire qui lui arrivait, donc qu'elle connaissait, hein, puisqu'elle a grandi avec les anciens déportés, mais c'est vrai que la reprendre un peu le flambeau de son papa, qui était légitime sur le département, c'est quelque chose qui, au départ, n'était pas forcément évident. De fil en aiguille, voilà, ça s'est fait, mais c'est vrai que le point de départ a été assez nouveau. Et donc, au milieu des années 90, se lançait à l'échelle nationale l'Association nationale des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Et en fait, il montait en place des délégations territoriales dans beaucoup de départements français. Et donc, Jocelyne a monté la délégation mayennaise. Donc, elle en est devenue présidente en 97. Et donc, au départ, on était une antenne de cette Association nationale des Amis de la Fondation. Donc à partir de 97, ça a été de s'entourer de bénévoles, hein, de premiers bénévoles. Hein, l'équipe, elle était toute petite au début. Jocelyne a eu la très bonne idée de s'entourer d'enseignants d'histoire-géographie, de sympathisants et bien sûr de familles de déportés, mais elle n'a pas restreint ça aux familles de déportés. Et ça a été vraiment la bonne idée de se dire, on va ouvrir cette mémoire-là à un large public et ça passe par l'équipe bénévole. Donc ça a été vraiment très très judicieux au départ. Et à partir de 97, ils ont mis en place des expositions, ils ont fait des actions mémorielles, culturelles. Ils ont surtout eu la très bonne idée d'enregistrer les déportés qui étaient encore en vie au milieu des années 90, qui ont accepté de témoigner. Certains, ça a mis du temps. Hein. Je sais que Jocelyne nous disait qu'il y en avait un qui a mis quasiment 10 ans avant d'accepter de témoigner. Parce que voilà, ça, il y en a qui n'ont jamais parlé, ou vraiment parlé très très tard, juste avant leur mort. Et cette déportation et le témoignage de la déportation, ça faisait souvent ressurgir des souvenirs horribles pour eux. Donc c'est vrai que transmettre comme ça, c'était pas forcément évident. Ça a été facilité localement parce que c'était une fille d'un des leurs, en fait, qui leur demandait de témoigner. Donc c'était pas, voilà, c'était pas en terre inconnue. Il y avait une proximité qui était là parce que Jocelyne connaissait bon nombre d'entre eux parce qu'elle avait grandi un peu avec eux. Donc c'est vrai que ça a été facilité. Donc on a heureusement plusieurs dizaines d'heures de témoignages de déportés mayennais, et ça c'est très précieux parce que clairement aujourd'hui on pourrait plus les faire, ils sont tous décédés. Donc ça c'est voilà, des témoignages qu'on exploite en plus au quotidien, notamment auprès des scolaires. Donc c'est des témoignages qui datent des années 90 avec une qualité audiovisuelle qui n'est pas celle d'aujourd'hui, mais au moins le contenu il est là, le sens il est là, donc c'est vraiment très précieux. Et donc ça, ces actions-là, ce cheminement-là et cette délégation mayennaise a fonctionné voilà, jusqu'en 2005 et même jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais en 2005, Jocelyne, son mari entre autres, se sont dit voilà, il y a quelque chose à faire en Mayenne autre que des expositions, autre que des actions voilà, où ils faisaient témoigner des déportés dans les établissements scolaires. Il faut regrouper tout ça dans un lieu qui serait ouvert au public, un lieu de mémoire et un lieu de transmission. Et donc la première idée, elle date de 2005. Sauf qu'ils se sont vite heurtés au statut juridique à l'époque de cette association départementale, puisqu'à l'époque, on dépendait du national. Et donc en 2007, ils ont créé l'association pour le mémorial de la déportation, qui est basée en Mayenne, dans l'objectif d'ouvrir un lieu de mémoire et de le faire fonctionner. Les premières missions de l'association, c'était bien sûr de poursuivre la transmission de la mémoire, mais c'était aussi de convaincre une collectivité, voire plusieurs, de l'intérêt du projet et de proposer un bâtiment pour accueillir ce projet-là. Et il a fallu attendre 2009 pour qu'il y ait une rencontre avec le maire de l'époque, hein, le maire de Mayenne, Michel Angot, qui a tout de suite été intéressé par le projet. Tout de suite, il a présenté à son équipe municipale et ils ont été fortement intéressés. Et tout de suite, ils ont proposé un lieu. Donc en fait, on est actuellement dans les anciens bains-douches de la ville de Mayenne. Donc on a entièrement été réhabilité par la municipalité de l'époque. Et l'association a aménagé l'intérieur, a eu vraiment carte blanche pour l'aménagement de l'intérieur. Donc à partir de ce feu vert donné par la municipalité en 2009, il a fallu penser tout l'intérieur du lieu, donc tout le contenu scientifique. Donc ça a été... Il y a une répartition en fait, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre purement historique, hein, les cartes, les frises chronologiques, ça c'était les enseignants d'histoire géographique qui ont travaillé là-dessus, l'exposition permanente aussi. Et plus tout ce qui tournait autour des objets, autour de l'ambiance, plus c'était les descendants qui ont travaillé aussi dessus. Mais voilà, ils ont travaillé en collégialité, hein, et ça a été vraiment un travail très 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 abouti, très intéressant, et dans le but que ce soit accessible au plus grand nombre. On a ouvert en 2012, donc il y a 11 ans maintenant, donc avec un espace mémoire. Donc l'espace mémoire, c'est 3 salles d'exposition permanentes. Et donc la quatrième salle qui s'appelle l'espace vigilance, donc on a ouvert en 2013. Cette salle-là a vraiment vocation à être très vivante, très changeante, très dynamique, dans le sens où tous les ans, tous les deux ans, dans cette salle-là, on aborde un sujet différent. Donc depuis 2013, on a évoqué plein de sujets, hein, les prisonniers de guerre, les nomades internés en Mayenne, puisqu'on a eu un camp d'internement de nomades à Montsûr. On a évoqué l'art et la résistance, on a évoqué les femmes qui se sont engagées pendant cette période-là. Voilà, on a évoqué beaucoup de sujets, les victimes juives, bien sûr, en 2020-2022. Et là, depuis fin 2022 jusqu'en décembre 2023, on a une thématique sur le thème « Mémoire en héritage ». Donc l'idée, c'est de montrer au travers de photos, au travers de témoignages, comment la déportation a touché, a impacté les générations suivantes. Donc là, c'est orienté vers la déportation, mais ça nous interroge tous aussi sur notre mémoire collective, notre mémoire familiale, individuelle, parce qu'on n'est pas des générations zéro. Hein. Il y a eu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents avant nous, une histoire avant nous. Et l'idée, c'est voilà, comment on hérite de ça, comment on vit avec ça, comment on grandit, comment on prend des décisions, des choix de vie qui, parfois, ont une résonance avec le passé de nos ascendants. Et là, pour le coup, pour les descendants déportés, c'est très marqué. C'est très marqué, où on a un certain nombre de déportés qui sont orientés vers des professions, vers des engagements associatifs très forts, parce que leurs parents étaient des résistants, parce que leurs parents ont souffert. Voilà. Il y a vraiment des parcours de vie de descendants qui sont, pour certaines, qui ont une résonance avec le parcours de déportés de leurs parents, grands-parents. Donc là, cette exposition-là, elle leur donne la parole au travers de témoignages écrits, audio, vidéo. Et c'est surtout, on a travaillé avec un photographe de Saint-Berthevin, la My Photo, Maxime et Morgane, qui ont réalisé des portraits de descendants et qui, sur le même cliché, l'ont associé au portrait de leurs parents, grands-parents déportés. Et c'est très fort, hein, ces photos-là, parce qu'ils portent. Il y a aussi le symbole de... Voilà, on les voit, ils portent des cadres. On porte aussi l'histoire de... Et on transmet la mémoire de la déportation. Donc à chaque fois, l'exposition temporaire, elle est présentée plusieurs mois, voire une année et demie ici. Et autour de ces expositions temporaires qu'on présente au mémorial, on organise des conférences, on organise des ateliers, des rencontres d'auteurs pour essayer d'aller au plus proche du public, d'avoir des formes de transmission de la mémoire qui sont différentes, hein, soit par la BD, des auteurs BD par exemple, des pièces de théâtre, des lectures de textes. On a vraiment cette volonté de que nos actions ne soient pas uniquement dans ce lieu.
L'exposition temporaire Mémoire en héritage, inaugurée en octobre 2022, s'achève le 20 décembre 2023 à la Vigie Mémorial à Mayenne. Des tête-à-tête qui sortent de l'ordinaire. Pôle emploi à Château-Gontier a organisé des pro-dating qui inversent en quelque sorte les rôles entre candidats et employeurs. On vous raconte ça dans quelques minutes.
Pour se préparer, fallait voir un peu les modèles qu'on nous proposait. On serait des bonhommes, on serait des durs, on en ferait des tonnes pour être bien sûr qu'on serait des bonhommes, ouais, qu'on serait des bonhommes. Lala, enfin devenu grand, Lala, on parlait très fort, Lala, on dérangeait les gens, on comprenait pas encore. On arrivait toujours en nombre, ça nous réchauffait. On ne voyait pas que nos ombres, ça les étouffait. On faisait les bonhommes, on faisait les durs, on en faisait des tonnes pour être bien sûr qu'on était des bonhommes, ouais, qu'on était des bonhommes. On faisait les bonhommes, on faisait les durs, on en faisait des tonnes pour être bien sûr qu'on était des bonhommes, ouais, qu'on était des bonhommes. La la la, oh la la. Chaque jour, la tendresse nous aide à les oublier. Si on est vraiment des bonhommes, on peut bien pleurer, c'est beau de pleurer. Nos nouveaux modèles se questionnent, à nous d'essayer. On sera des bonhommes sans jouer les durs,
Et si ça vous étonne ou ça nous rassure, on sera bien conscient de nos privilèges. Ils donneront de l'élan pour éviter les pièges. On sera des bonhommes sans jouer les durs. Et si ça vous étonne ou ça nous rassure, on sera des bonhommes. On sera des bonhommes. La la la. Ouh la la la.
C'était Bonhomme de MPL dans l'album éponyme Bonhomme.
Des CV déposés, des entretiens inversés. Les employeurs s'alternent à la table des candidats en recherche d'emploi. Caroline était sur place et a tendu son micro. C'était à Château-Gontier.
On est au Palace pour cette matinée job dating inversée qui a commencé à 9h30. Vous êtes donc le directeur du Pôle emploi de Château-Gontier, Monsieur Soudani. Cette matinée, c'est à l'initiative de l'agence Pôle emploi de Château-Gontier. Comment vous est venue l'idée de proposer cette formule atypique de job dating inversé?
Alors écoutez, on est sur un territoire de plein emploi puisqu'on est à 4% de taux de chômage. Et dans ces situations-là, vous avez toujours des candidats qui recherchent un emploi et vous avez beaucoup d'entreprises qui vivent ce qu'on appelle des tensions de recrutement. Notre proposition à nous, c'est de faire un choix et de proposer une solution innovante et de se dire, eh bien, on va bousculer les habitudes, on va renverser les rôles et on va faire en sorte que ça soit les entreprises qui soient en situation de candidater auprès des demandeurs d'emploi qui, eux, vont choisir les entreprises sur CV, sur une entreprise qui aura 10 minutes pour se présenter.
Les candidats se retrouvent en position peut-être de choisir, voire peut-être de négocier, ce qui est vraiment intéressant pour des personnes qui ont des parcours qui sont déjà riches, en tout cas des parcours professionnels avec beaucoup d'expérience. Combien de personnes là ont participé à peu près à cette matinée?
C'est exactement ça. On inverse les rôles et en fait on les rééquilibre plutôt que de les inverser. Sur cette matinée, c'est une cinquantaine de demandeurs d'emploi qui ont été tous préparés individuellement à vivre ce type de rencontre, puisqu'on sort des sentiers battus, et 8 entreprises du secteur industriel, 8 entreprises qui ont des vrais besoins de recrutement. On peut citer par exemple Réauté Chocolat, Longchamp ou alors SNV.
Il y a cette possibilité d'être formé, en tout cas d'évoluer au sein de l'entreprise.
On est dans une situation où au-delà du recrutement, il y a tout un processus derrière qui se met en place, puisqu'il va falloir former le candidat, l'intégrer, le faire participer à comprendre également la culture de l'entreprise. Et tout ça, ça ne se fait pas comme ça. Ça nécessite du temps, ça nécessite aussi que les entreprises mettent les moyens. Et Pôle emploi, on accompagne les candidats et les entreprises à sécuriser l'emploi une fois qu'on est rentré dans l'entreprise. Et c'est aussi une partie qui est très importante.
Je représente Carpenter de Cran, qui est une entreprise de transformation de mousse. Je suis en charge des ressources humaines sur le site de Cran.
Là, aujourd'hui, vous avez rencontré des candidats. C'est vous qui vous déplaciez. C'est vous qui passiez un peu un entretien en présentant les différents postes et le fonctionnement de l'entreprise. Que vous avez eu beaucoup de monde?
Il y avait beaucoup de candidats, oui. Ça, c'est un format un peu original qui change de d'habitude. Pour une fois, c'est l'entreprise qui se vend. Mais je crois que de toute façon, vu le manque de candidats, maintenant, c'est aussi le rôle des entreprises d'essayer de vendre leurs atouts. On est en Mayenne, on a 4%. De taux de chômage, c'est-à-dire quasiment la moitié du niveau national. Donc on est vraiment désespéré de trouver des candidats, des bons candidats.
Est-ce qu'il y a une entreprise qui vous a tapé dans l'œil?
Oui, plusieurs.
Vous avez participé à combien de rencontres?
8 ou 10.
C'est pas mal ça.
Bah oui, c'est pas mal.
De quel univers professionnel vous venez, vous?
Moi, normalement, j'ai de l'industrie, en fait. J'ai déjà donné pas mal de CV, hein. Donc j'attends les retours, on verra bien s'ils me demandent de me voir ou pas en fait. Moi j'ai beaucoup voyagé, donc je connais pas mal de...
Vous avez beaucoup d'expérience.
Voilà, c'est ça, on verra bien. Autrement je repartirai ailleurs. Si je trouve pas de boulot ici, je suis pas d'ici. Hein, donc,
Mais ici, il y a du travail.
Oui, tout à fait, ouais, c'est vrai. Pas mal. Mais après, c'est les salaires. Les salaires sont super bas ici, quoi.
J'entendais tout à l'heure, là, il parlait de l'évolution justement dans l'entreprise et du fait de pouvoir commencer, voilà, et puis de passer chef d'équipe, en tout cas des possibilités d'évolution professionnelle.
À discuter avec les entreprises.
Voilà, c'est vous qui allez négocier.
Je pense que oui. J'ai toujours négocié de toute façon dans la vie, donc...
Vous verrez dans les postes, hein, opérateur de nettoyage, hein, ça fait partie des postes sur lesquels je recrute aujourd'hui aussi. Là, c'est différent de la production. Hein. C'est un autre métier, mais on a besoin d'opérateurs dans ce domaine-là.
Chaque mardi, il nous surprend un peu plus, il ne vient jamais les mains vides. Donatien, si tu veux me faire plaisir, ne m'offre pas de fleurs, pourquoi pas plutôt un bouquet aux couleurs des feuilles d'automne.
Je ne fêterai pas mon anniversaire, ni sur les ondes, ni sur la pelouse d'un jardin joliment décoré pour l'occasion. J'ai 6 mois, à peine, et les biologistes, les jardiniers, le commun des mortels annoncent comme irrémédiable ma mort prochaine. Je suis feuille d'automne, de celles qu'on ramasse à la pelle avec les souvenirs et les regrets aussi. Heureusement, il y a les poètes et les peintres qui me font passer à la postérité. Je suis une feuille d'automne parmi les milliers qui forment un tapis de jeu pour les enfants, un tapis sous lequel se cachent les hérissons, un tapis sous lequel les écureuils prévoyants cherchent encore quelques noisettes délaissées par les cueilleurs. Dans ce jardin où je ne fêterai pas mon anniversaire, je ne suis qu'une feuille parmi des milliers d'autres, car nous sommes une grande famille depuis les crénelés, les palmés et les nervurés jusqu'aux persistantes semi-caduques ou marcescentes. Toutes coquettes, aux courbes lisses ou crénelées, simples ou composées, nous offrons l'été l'ombre propice aux nourrissons comme aux retraités, pareillement emportés sur l'onde d'une sieste bienfaisante. Sous la ramure, le travailleur des champs, pour un moment, pose l'outil au pied du tronc noueux. Nous abritons les amoureux qui se cachent du soleil pour échanger un baiser. Dans ce jardin où je ne fêterai pas mon anniversaire, nous offrons des perchoirs aux oiseaux, choisissant notre couleur sur la palette de toutes les nuances de vert. Opaline, impériale, céladon, jade, ou mentalo, ou l'enivrant vert absinthe. Qu'importe le vert, nous sommes toutes occupées le jour à faire le plein d'énergie, divine et précieuse photosynthèse. Et le soir, dansant sous le vent, nous sommes occupés à plaire. Moi, je suis feuille d'érable, si folle et fière de mes folioles dentelées qu'en me détachant sans pudeur de la branche, je m'allonge sur le givre rouge de confusion. Je ne fêterai pas mon anniversaire, à moins que l'enfant qui ce matin me ramassa pour colorer son bouquet de feuilles qu'elle tenait à sa main trop frêle, ne me glisse dans son cahier. Alors, une fois séché, je goûterai grâce à ce premier herbier un peu d'éternité.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants.
Cora Vauquer, les feuilles mortes sur l'autre radio. Lucie, on a rendez-vous ce soir.
Tu essayes de dire qu'à 19h, c'est l'émission des rendez-vous de la PES ? Tu nous en as fait des meilleures introductions, Margot, c'est pas grave. En fait, chaque mois, la PES parle d'économie sociale et solidaire et fait le portrait d'un acteur du territoire. Aujourd'hui, Giannina aborde les différentes facettes de la RSE.
Et à 21h, c'est l'émission Frères de chaussures. Ils tiennent à l'accent circonflexe sur le mot frère. Ils n'imaginaient pas que pendant plusieurs semaines, j'allais annoncer leur émission en oubliant carrément un mot. Ouais, en fait, je les ai appelés longtemps Frères chaussures. Heureusement, Joël, notre programmateur, tend l'oreille sur ce que je raconte parce que sinon...
Bon, chers auditeurs, comme Margot raconte plus ses petites anecdotes qu'elle nous parle de la programmation, en fait, Frères de chaussures, c'est notre émission qui parle rap français et elle est proposée par Fatshu. Et c'est bien à 21h que ça passe, parfois, parce que parfois elle se trompe aussi dans les horaires.
Amis auditeurs, on rend l'antenne. Vous avez le temps de vous faire couler un café avant la prochaine émission. Ne le buvez pas seul si vous avez besoin de compagnie, invitez quelqu'un et prenez-en soin. Toutes les recettes sont bonnes tant que vous faites le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.